RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Christophe.
Ça va bien ?
Je suis en pleine forme et vous aussi je le vois.
Ah bah oui, on est en pleine forme, on est content de retrouver nos amis auditeurs chaque samedi pour ces vôtres jours de science. Et on apprend des choses hein, chaque semaine, on apprend en famille, entre amis et surtout on vulgarise hein, autour de sujets passionnants souvent qui oscillent entre science et histoire. Alors ce soir, c'est un retour aux sources Fabrice que nous proposons à nos amis auditeurs pour mieux faire connaissance avec l'une des céréales les plus cultivées au monde qui accompagne le quotidien de l'homme depuis la nuit des temps. Vous avez bien sûr reconnu le blé dont on va parler aux côtés d'une voix bien connue de la radio et des amoureux de l'environnement, Ruth Stegassine, mais elle ne sera pas seule ce soir dans cette émission.
Oui, vous l'avez dit Christophe, on va bien aujourd'hui passer au tamis du savoir, la grande histoire de cette céréale bénie des dieux qu'est le blé, ayant façonné l'identité des terroirs et des hommes depuis sa lointaine Mésopotamie. Un blé dont les épis, on va le comprendre, ont bien changé en traversant les siècles, bien qu'on continue évidemment à l'inviter quotidiennement à nos tables. Et pour ensemencer nos connaissances en la matière, vous l'avez précisé, nous aurons par téléphone dans quelques instants depuis le Canada, Ruth Stegassine, une voix que les fidèles auditeurs de France Culture reconnaîtront puisque cette journaliste est productrice de radio, spécialiste d'environnement notamment, a en effet œuvré pendant une trentaine d'années sur ces ondes, aux commandes notamment de l'émission Terre à Terre, diffusée chaque samedi matin jusqu'en 2016. Mais Ruth Stegassine, c'est aussi et surtout une femme très active dans le domaine de l'écologie, viscéralement attachée à l'agriculture paysanne et désormais investie dans la sauvegarde de céréales anciennes, et vous l'avez également précisé pour cet entretien, depuis le Canada, elle sera épaulée par Jean-Pierre Bolinini, éleveur de métier, surtout passionné de semences paysannes. Il s'investit aux côtés des grandes associations sur ce thème, et c'est surtout avec lui qu'on parlera d'histoire et avec Ruth Stegassine de projets actuels.
C'est votre jour de science, l'expert.
Et avec nous pour débuter, Ruth Stegassine, bonsoir.
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 Ou bonjour. Puisqu'il est... Voilà, il est 17h chez nous, il est 11h chez vous donc au Canada et on ne peut débuter cet entretien Ruth Stegassine sans préciser donc à nos éditeurs que si l'Atlantique nous sépare en ce moment pour converser, c'est bien en Corse hein, que vous vivez désormais.
En effet, depuis 2 ans maintenant.
Alors pour bien poser cette thématique de la grande histoire du blé, il faut évidemment remonter au plus profond de ses origines avant même sa domestication par l'homme. En milieu sauvage, a-t-on déjà affaire à une graminée qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que l'on connaît aujourd'hui?
Alors, on a affaire à plusieurs graminées qui ressemblent assez à celles que l'on connaît aujourd'hui, d'autant plus qu'il y en a même une qu'on continue à pouvoir trouver le long des chemins de Corse, mais elle est tellement discrète, tellement menue qu'on ne la remarque pas. C'est l'égilope, qui est une des ancêtres du blé, et elle s'est croisée avec d'autres céréales, d'autres graminées, l'amidonier par exemple, et là j'ai passé la parole à Jean-Pierre Bolognini qui va... vous expliquez ça bien mieux que moi.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le spécialiste quand il s'agit de parler d'histoire et de science autour du blé. On vous écoute sur cette origine.
Oui, quand on parle de blé, on a surtout en tête le blé tendre et aussi le blé dur. Mais en fait, il y a un nombre important d'espèces de blé, dont des blés sauvages. Mmh. Et le blé tendre et le blé dur sont issus de croisements entre des blés sauvages et des égilopes, qui sont des graminées proches d'un genre proche des blés.
Alors, on a compris, et puis là, c'était même très intéressant hein, pour l'auditeur de se dire qu'en se baladant sur nos chemins, pour qui c'est regardé, eh bien, on a un ancêtre sauvage, hein, du blé, aujourd'hui bien changé et domestiqué. C'est intéressant aussi de repartir dans ces endroits du monde où, pour la première fois, l'homme l'a capté. L'homme l'a pris à ses côtés pour le faire grandir. On est où pour la première fois que l'on domestique le blé sur la planète?
Mais on est en Moyen-Orient, dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc au bord du tigre de l'Euphrate, ça remonte sur le Caucase et ça redescend sur les berges de la Méditerranée en Israël, Palestine aujourd'hui.
Et si on devait avoir une période hein, qui puisse nous éclairer, on est quoi, il y a 8 millénaires à peu près avant Jésus-Christ?
Oui, pour le blé, pour la naissance du blé tendre, ça correspond en grande partie à la naissance de l'agriculture. Oui, c'est moins 10 000 ou moins 8 000 ans avant Jésus-Christ.
Bon. Et est-ce que si on doit ramener ça à la Corse, c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites dessus, alors pas forcément extrêmement nombreuses hein, sur cette origine de la domestication du blé par nos ancêtres insulaires. On est, il y a quoi ? Il y a 5000 ans, 6000 ans environ, peut-être à cette époque de l'âge du bronze pour ce qui nous concerne ?
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
En fait, c'est le temps que ça a pris à ces céréales pour voyager avec les humains.
Eh oui.
Avec les hommes qui ont quitté le croissant fertile et qui sont partis en suivant deux chemins. Un qui est monté plutôt le long du Danube et un autre qui est allé par la Méditerranée. Et en fait, les premiers blés corses sont les blés qui sont arrivés de Mésopotamie par la Méditerranée.
Et on va comprendre, mais ça on réserve un peu la surprise à nos auditeurs avec Christophe en vous interrogeant tous les deux, on va comprendre que ces blés très très anciens, grâce à vous notamment, eh bien on peut les faire revivre aujourd'hui pour ce qui concerne notre région. Mais j'ai envie d'aborder, on voulait avec Christophe hein, soulever cette idée forte, cette thématique de la du croisement, hein, de cette notion de sélection naturelle, c'est-à-dire un végétal qui est sauvage, l'homme l'attrape, le capture hein, et ensuite le transforme. Alors ça se passe comment, clairement, cette transformation pour donner toute une variété aujourd'hui à partir de quelques pieds originels ?
Alors, Jean-Pierre, peut-être ?
Oui, ben, en fait, au début, c'est une économie de cueillette, surtout. Mm-hmm. On cueille les épis sur des plantes qui ont la particularité d'avoir un épi très fragile et une maturité des grains sur les plis échelonnée. Au fur et à mesure que le grain mûrit, il tombe à terre. Donc, on est obligé de repasser et de cueillir le grain au fur et à mesure de sa maturité. Mais avec le temps et avec la cueillette, les blés vont acquérir un épi de plus en plus solide, de plus en plus rigide, qui va permettre de récolter les épis entiers, voire de moissonner. Donc, la domestication, c'est vraiment l'interrelation et la coévolution de la plante et des hommes qui vont l'utiliser.
Ça veut dire, si on vous écoute, que finalement l'homme va modeler, va façonner, va créer un nouveau végétal, en tout cas celui qui correspondrait soit à son envie de le croquer, soit à la technique qu'il met en place pour le cultiver, c'est ça ?
Oui, c'est ça, mais je trouve que le terme de coévolution montre bien que si l'homme a façonné le végétal, et en effet, il l'a transformé de manière assez extraordinaire dès 8000 ans avant Jésus-Christ, mais dans le même temps, ces plantes ont façonné les humains, parce que on associe très clairement, et les archéologues le font vraiment avec beaucoup de précision, on associe très clairement la culture, les débuts de la culture des céréales avec les débuts des sociétés humaines. Les premiers villages se sont fondés sur ces premières récoltes, en fait.
Ça, c'est vraiment passionnant, hein, ce que vous nous dites là, Ruth Stegassi, parce qu'on peut même parler quasiment de création, de civilisation à la base d'une plante domestiquée telle que le blé.
Complètement, complètement. Et pas seulement le blé, on pourrait dire la même chose des autres céréales dans les autres civilisations. Le riz est vraiment à l'origine de la civilisation, des civilisations asiatiques. Le maïs est à l'origine des civilisations amérindiennes. Et à chaque fois, ce sont donc des céréales qu'on retrouve.
Vous parliez, Ruth Stegassi, de transformation. Est-ce qu'il peut y avoir une perte qualitative due à ces transformations ?
Alors, pas dans l'époque dont nous parlons aujourd'hui. Pour l'instant, on est toujours dans la domestication, on est dans les débuts de l'agriculture. Je suis pas sûre qu'on puisse parler de perte de qualité, mais on peut déjà parler de perte de biodiversité. Mmh. Ça, c'est exact. C'est-à-dire que la perte de la biodiversité, elle a commencé dès que l'homme a mis la main sur les plantes. Il a su sélectionner ce qui était le plus profitable pour lui, le plus nourrissant, mais en faisant cela, il a fait disparaître des espèces, ça c'est vrai, et des variétés.
Mais pour recentrer la question de Christophe, si on devait un petit peu quitter ce néolithique, cet âge du bronze, et puis après toutes ces périodes qui nous séparent de cette lointaine domestication, aujourd'hui plus clairement, est-ce qu'on peut considérer, vous qui connaissez les blés anciens pour les faire revivre, hein, pas tous mais beaucoup, est-ce qu'on peut considérer que les blés d'aujourd'hui sont quelque part moins adaptés à un environnement et moins qualitatifs que ceux de cette époque dont on parlait il y a quelques secondes ?
Alors là, oui, tout à fait, tout à fait. Jean-Pierre, peut-être, est-ce que tu veux dire quelque chose ?
Oui, depuis le néolithique, en fait, pendant des milliers d'années, il y a eu un façonnage, une adaptation des blés en fonction des besoins des sociétés paysannes. Et ça a duré jusqu'à encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. Le grand moment qui marque la perte donc de qualité de alimentaire des blés, c'est à partir du moment où on a sélectionné les blés pour pouvoir être adaptés à une agriculture utilisant des machines.
Eh oui.
La machine a profondément changé la nature des blés. Et ce sont encore les machines qui, dans un deuxième temps, ont encore plus modelé les blés à leur intérêt quand il s'agit de machines de boulangerie.
D'accord.
De pétrin mécanique, de façonneuse, de choses comme ça, parce que en fait, les qualités de ces blés sont devenues des qualités technologiques pour la transformation mécanique.
Ouais, donc, il y a un petit hiatus entre la technologie qui avance pour l'homme et de l'autre côté, la qualité de ce qu'il produit parallèlement grâce à cette technologie.
On parle du blé ce soir et cette semaine dans C'est votre jour de science. Nos invités depuis le Canada, figurez-vous, Ruth Stegassi et Jean-Pierre Bologny.
France Bleu, RCFM. France
Bleu. L'heure de la sortie a sonné. Encore une journée passée à rien penser. Courir, payer, acheter, voler. Et un jour oublier la couleur des blés. Moi j'ai vu des bateaux couler. Sans un point levé, sans une voix haussée. Apprendre à ne jamais rien demander. Surtout ne pas regarder les gens tomber. Un peu plus de sang sur les doigts. Mais c'est ça le paradis. Si tu vois par-dessus les toits, la couleur est verte ou gris. Un peu plus de sang à cracher. Mais petit c'est beau la vie. En dedans les gens sont cachés. La nuit tous les chats sont gris.
La couleur des blés Blancas.
C'est votre jour de science, l'expert.
Parce qu'on parle donc, Fabrice, ce soir du
blé, je sais pas, la chanson l'a presque dit.
Exactement. Deux invités pour en parler depuis, figurez-vous, le Canada où il est 11h presque 20 minutes. Avec nous donc Ruth Stegassi et Jean-Pierre Bologny. Alors, on parlera dans un instant. Vous allez sortir très prochainement un livre que vous avez coécrit donc tous les deux. Alors, on va parler à présent de votre militantisme, Ruth Stegassi. Vous militez pour faire revivre les blés anciens. Un cas très concret qui concerne directement notre histoire agricole. Vous avez retrouvé et remis en culture deux blés originaires de Corse qui vivotaient sur les étagères d'une banque de semences aux États-Unis. Vous pouvez nous expliquer, Ruth ?
Oui, en fait, c'est même ce qui explique la raison pour laquelle nous vivons maintenant en Corse. Nous avons une collection de céréales anciennes dont on parlera peut-être. Et on avait rencontré Tony Pierri des Jardins d'Aguion qui faisait le festival Dia Biodiversità il y a quelques années. Et on lui avait proposé de monter une petite collection de céréales de Méditerranée, de blé méditerranéen chez lui, ce qu'il avait accepté. Donc on a cherché des blés italiens, espagnols, tunisiens, enfin vous voyez, des blés qui pouvaient s'approcher. Mmh. Et on a évidemment cherché des blés corses. Et là, stupeur, il n'existait plus de blé corse, ni en Corse, ni dans les collections nationales de céréales en France, ni dans les collections européennes. Il n'y en avait plus. Ils avaient complètement disparu. Donc, on a été un peu ennuyés. On s'est dit, bon, ben, tant pis, on va remonter notre collection avec des blés voisins, des blés cousins, et puis ils deviendront corses. Et un jour, un ami nous dit, mais si, figurez-vous, il y a deux blés corses aux États-Unis, dans une banque de semences dans l'Idaho. L'Idaho, c'est vraiment le Far West. Alors, un peu étonné, on va voir sur le catalogue et on trouve en effet deux blés assez mystérieux qui s'appelaient blé de Chine, entre parenthèses, Corse. Alors, question, ils étaient chinois, ils étaient corses? Impossible de savoir. On s'est dit, bon, tant pis, on les demande, on les a demandés, et quand vous demandez des blés dans une banque de semences, on vous envoie 5 grammes, c'est-à-dire une pincée, une petite pincée. Et on a reçu ces deux petites pincées de blé qui avaient été déposées par un monsieur d'Orléans en 1921 dans cette banque américaine. Ne me demandez pas pourquoi, on n'a jamais compris pourquoi nous-mêmes. Et on les a mis en culture, mais la précision intéressante, c'est que la banque américaine nous avait envoyé les coordonnées GPS du lieu où ces blés avaient été collectés. Donc en 1920 ou 21. Et les coordonnées GPS, tenez-vous bien, c'était un hameau de Canary dans le Cap Corse, un hameau qui s'appelle Kine, ça s'écrit Chine. Et voilà.
Tout s'explique. C'est comme ça. Le blé chinois, hein, avec une mauvaise traduction peut-être. Et le deuxième s'appelait comment? Vous nous avez cité ce blé bridé, mais le second?
En fait, les deux s'appelaient de la même manière et c'est nous qui leur avons redonné des noms parce que l'un était barbu et l'autre non barbu.
Bon, c'est bien. Donc, le Canary alors s'il est barbu. Vous avez replanté, vous nous précisiez, ce blé, ces quelques poussières de grains, hein, enfin ces quelques grains en réalité que vous aviez en votre possession, et il a germé, il a pu lui-même donner des épis qui ont fait des grains. Vous avez pu comme ça multiplier le poids de ce que vous aviez en main?
Alors la première année, il était très chétif, malingre et visiblement pas très en forme. Mais il a effectivement donné un peu plus de grains que ce qu'on avait semé. La deuxième année, on a senti qu'il était très heureux d'être rentré à la maison. Il était vigoureux, il était beau et il était même en avance sur les autres blés. Alors, comme il y en avait très peu, il y en a encore assez peu. La multiplication, c'est vraiment un processus qui prend quelques années. Il faut être patient. Et là, on en est on l'a cultivé donc 3 années de suite. On a un petit sac de ce blé de Corse, de ces deux blés corses, voilà, aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut estimer l'âge de ces blés pour leur pied originel, ou c'est vraiment très compliqué? On sait qu'ils ont été recueillis et donnés aux États-Unis en 1920-1921, mais est-ce qu'on connaît pour autant leur ascendance?
Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que d'après les récits que nous ont fait les anciens de Lille, ça ressemble tout à fait aux deux variétés qui étaient les plus cultivées en Corse. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces variétés ont été cultivées depuis des temps ancestraux, puisque déjà à l'époque romaine, nous habitons à côté d'Aléria et dans le fort d'Aléria, on voit bien qu'il y a des traces de cargaison de blé et des moulins qui existaient déjà à l'époque romaine.
Vous nous avez précisé tout à l'heure, hein, que vous étiez avec votre compère Jean-Pierre Bolognini à vos côtés, à la tête d'une belle collection, je crois, d'environ 200 variétés de blé et d'orge. Vous nous en parlez un petit peu?
Oui, c'est exact. Eh bien, c'est une collection que Jean-Pierre a constituée depuis le début des années 2000. Peut-être que tu peux en parler.
Oui, c'est une... Effectivement, j'ai commencé cette collection... à peu près au moment de la naissance du réseau Semences Paysannes, qui a permis donc des rencontres entre de nombreux passionnés qui, dans leur coin, un peu isolés, cultivaient des blés anciens. Et à partir avec la rencontre, donc il y a une synergie importante qui s'est créée, d'échanges, de recherche de blé dans les différents instituts qui existent de par le monde. Et nous avons pu, en quelques temps, par exemple, remettre en culture dans les champs les 800 variétés françaises connues qui étaient pour la plupart dans les banques de semences.
Est-ce que vous pensez, Ruth et Jean-Pierre, qu'il puisse y avoir un modèle économique viable en Corse pour qui voudrait travailler à partir des blés ancestraux ?
Nous en avons la conviction. C'est même pour ça que nous sommes venus nous installer en Corse. Nous pensons que la Corse est une corne d'abondance. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une agriculture de qualité. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a le soleil, il y a les hommes et il y a même les semences. Et nous pensons qu'il serait tout à fait possible de remonter toute une filière autour des céréales. Ceci dit, quand je dis remonter, on repartirait vraiment de très loin. Parce que malheureusement, cette agriculture-là a été vraiment laminée, elle a disparu depuis maintenant un siècle. Donc il faut tout reconstituer.
C'est vrai que quand on se plonge un peu dans l'histoire agricole de l'île, même si certains livres faisaient apparaître le côté grenier à blé que la Corse pouvait représenter, notamment pour le peuple romain, on a compris, les archéologues le disent aujourd'hui quasiment de concert, que c'était plutôt la Sicile par exemple ou l'Égypte qui était ce fameux grenier à blé. Nous, c'était davantage une subsistance villageoise, une autosuffisance parfois et même pas toujours, mais il n'y a pas forcément eu une grande culture, je dirais, pour l'export notamment du blé en Corse. Et là, il y aurait peut-être à travers ces variétés anciennes et puis le côté hyper qualitatif au-delà du côté patrimonial, oui, en effet, je crois qu'il y a pas mal de monde autour de vous qui bosse là-dessus, une opportunité économique pour l'île. Vous nous parlez tous les deux, s'il vous plaît, parce que pour le coup, on a la chance de vous avoir en duo, de ce projet de livre que vous êtes, que vous avez déjà écrit, qui va sortir, on va le dire, dans quelques jours, dans toutes les très bonnes librairies. Ça s'appelle « Blé de pays et autres céréales à paille ». C'est aux éditions Ulmer, un beau projet.
Oui, c'est un projet qu'on porte depuis plusieurs années. Et on a été très heureux que Ulmer nous propose de le faire. En fait, dans ce livre, on retrace alors vraiment abondamment toute l'histoire du blé, de sa domestication, les procédés de sélection qui se sont mis en place, la façon dont il était observé et connu et aimé dans les sociétés paysannes et la façon dont ça s'est transformé aujourd'hui, sa place dans notre alimentation, enfin vraiment c'est extrêmement large. Et puis, on fait des portraits de certains blés, comme vous feriez un portrait de quelqu'un que vous aimez. Et à travers ce portrait, on raconte encore des pans entiers de l'histoire. Par exemple, la disparition des moulins. Comment tous les moulins ont disparu en France en l'espace de quelques années. On parle aussi de la transformation des gluten. C'est une question qui intéresse beaucoup de gens. On évoque la façon dont les banques de semences sont à la fois sauver ces semences qui étaient en train de disparaître, mais en même temps en les tronquant de certaines de leurs qualités, en les empêchant d'être en terre tous les ans et donc de suivre l'évolution qui est vraiment constante du climat, de la terre, toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, en effet, les blés sont dans une situation un peu critique, je dirais, comme la plupart des plantes, mais en même temps avec un formidable espoir derrière.
Et une petite focale sur la Corse dans ce livre ou quelque chose de beaucoup plus universel ?
Alors, à la fois beaucoup plus universel, mais un des portraits que nous faisons, c'est le portrait de nos fameux blés de Chine, des blés corses. Nous racontons comment nous les avons retrouvés et comment ils peuvent tout à fait s'intégrer ici et devenir des beaux blés.
Et une opportunité.
Eh ben, on en reparlera, bien sûr, de ce livre à apparaître très prochainement. Merci beaucoup, Ruth Stegassi. Merci, Jean-Pierre Boulogny, d'avoir été avec nous depuis le Canada.
Merci à vous.
À bientôt. Merci. Au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
L'actualité insolite des sciences, mon cher Fabrice. Saura-t-on demain de l'eau en boule? Ah ben oui, figurez-vous, Fabrice, qu'une société britannique tente de promouvoir un emballage gélifié comestible pour transporter et stocker de l'eau. Alors leur idée, encapsuler l'eau dans un gel, il faut suivre, Donc encapsuler l'eau dans un gel à base d'algues. Le procédé de fabrication de ces balles d'eau a été baptisé eau ils ne sont pas foulés, hein, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors pour bien comprendre, l'eau est dans un premier temps congelée dans des bacs à glaçons de forme sphérique, puis ces boules de glace sont plongées dans un bain de chlorure de calcium, puis d'alginate de sodium.
Compliqué pour l'instant.
Compliqué. Alors certes, la préparation elle n'est pas très commode ni à consommer, si vous souhaitez boire, par exemple, sans vous asperger ni à transporter, mais l'invention a tout de même été nominée au concours danois du design susceptible d'améliorer la vie. Alors je vous vois venir, Fabrice, hein, sur mettre de l'eau en boule, pourquoi pas des sodas ou encore certains alcools, par exemple, dans le pastis, hein, qui on sait se consomme avec beaucoup d'eau, à consommer tout de même avec modération. Je vous laisse déposer le brevet pour les alcools, Fabrice.
Ouais, et puis déjà, on dit un ballon. Hein, souvent, quand on va dans un bar, on demande un ballon, donc on n'est pas très loin. Ils nous amèneront un ballon avec la forme qui va à côté pour nous servir. Écoutez, moi, de mon côté, la première question que j'ai, puis je ne sais pas vous trouver à chaque fois, c'est chronique scientifique.
On n'invente rien. Hein,
mais je ne les trouve jamais, moi.
Hein. On promet qu'on n'invente rien.
Oui, on promet qu'on n'invente rien, mais je fouine. Hein, et puis celle-là, je ne l'avais pas notée. Allez, moi, si je devais vous poser la question de savoir qui, selon vous, est l'animal le plus bizarre sur la planète.
Le plus bizarre.
Ouais, lequel vous semble le plus incongru? Un truc qui ressemble vraiment à pas grand-chose et qui pourtant existe, un animal étonnant.
Je sais pas, allez-y.
Non, vous avez rien qui vous vient comme ça. Il n'y a que des animaux banaux. Alors en fait, pour beaucoup, et certainement que les auditeurs là, l'auront eu en tête, il y a l'ornithorynque. L'ornithorynque avec son bec de canard, sa queue de castor et ses pattes palmé, eh bien figurez-vous qu'il est devenu un trésor d'études pour les scientifiques, pistant de très près la composition de son lait. Car oui, l'ornithorynque allaite ses petits, alors non pas avec des mamelles, puisqu'il ne fait rien comme tout le monde, hein, ou qu'il fait tout différemment, mais par des glandes situées à l'intérieur de son corps. Du lait qui suinte plus précisément par les pores de sa peau et enduit ses poils qui sont léchés par sa progéniture. Et comme ce circuit n'est pas très hygiénique, l'ornithorynque a développé une protéine particulière capable d'éliminer les mauvaises bactéries de son lait avant que celui-ci n'arrive jusqu'au bébé. Eh bien, c'est précisément cette protéine au pouvoir antibactérien qui intéresse les scientifiques, souhaitant la recopier et créer ainsi une nouvelle génération d'antibiotiques. Autrement dit, des super médicaments bientôt arriveront sur le marché grâce à l'étude du lait de l'ornithorynque.
Ah bon, on n'arrête pas le progrès. On peut bien sûr écouter cette émission sur Internet, en podcast, bleurcfm.com pour retrouver C'est votre jour de science. Merci Fabrice.
Merci, on l'écoutera religieusement.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Ciao.